Gacombi.
2015.
C'est fini.
Une simple supposition, si je vous disais que c'est ici le terminus. Ouais, supposons que je vous dise, je ne veux pas aller plus loin.
Mégacombi, c'est fini.
Prendront à leurs dépens et dans la douleur, à craindre la colère de Dieu qui s'abat sur ceux qui oppressent ses humbles serviteurs qui ont choisi la voie de l'islam.
Jésus leur a bien pardonné, lui.
Jésus, c'était Dieu. Et seul Dieu peut montrer autant de miséricorde.
Je vous en prie, avec $5,000 tous les deux ans, vous avez le droit de m'appeler Charlie.
Je t'adore, Charlie. Mais tu as les réactions d'un enfant de 6 ans qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne regarde pas des deux côtés de la rue avant de la traverser.
C'est du délire, là, c'est du très grand délire.
La prochaine méga combi, c'est mercredi.
Nom de Dieu, c'est pas vrai.
Et si, là, ce n'est malheureusement trop vrai.
Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro.
À la vôtre, alors, bande d'enculés.
Et un dernier petit mot.
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Chères sœurs, bienvenue à l'église Charles évangélique des survivants.
Il n'y a de Charlie que Charlie et Philippe Vallée, son prophète.
Prenez votre Charlie, livre de Charbes, planche 22.
Je suis Charlie.
Nous allons maintenant communier ensemble.
Je suis Charlie.
Prenez vos crayons et dessinez un terroriste islamiste. Dessinez Christine Boutin en string. Et les enfants, vous pouvez dessiner des bites.
Je suis Charlie.
Mes frères, mes sœurs, je vous invite à déposer vos dessins dans l'urne à la sortie de l'église. Ils seront envoyés aux enfants du tiers-monde qui, eux, n'ont pas de crayons.
Je suis Charlie.
Et maintenant, nous allons écouter ensemble, religieusement, cette heure quotidienne d'information dont la liberté d'expression est le credo. Je veux bien entendu parler du Canu Info.
Charlie Akbar.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Nous sommes le mercredi 20 janvier 2016. Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors ce soir, nous allons bien sûr parler de l'état d'urgence.
de l'appel de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Ensuite, on va parler statistiques sur les actes racistes en France.
Ensuite, aucune loi de gauche ne passera.
Ensuite, on ira à Calais, où des expulsions sont à venir.
Modification de la mention du sexe à l'état civil.
Ensuite, on parlera du hasard des études.
Après, ça va pchit avec le gaz de pchit et les tremblements de terre.
Ensuite, il y a Erdogan qui menace les intellectuels pacifistes.
Un petit coup de Ikea, de diplomatie suédoise et de Sahara occidentale.
Ensuite, on ira faire un tour en Israël où des cadavres sont pris en otage.
On finira par une direction l'Argentine avec la guerre du gouvernement contre certains médias.
Et ensuite, des cas de génocide au Burundi, l'ONU se prépare. Voilà. Alors, la Caisse de solidarité vient de sortir une brochure à propos de l'état d'urgence. Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'on y retrouve. Alors, dedans, on a bien sûr les chiffres officiels publiés par le ministère de l'Intérieur, plus de 3000 perquisitions administratives, 366 interpellations, dont 316 gardes à vue, 346 ouvertures de procédures judiciaires et 50 incarcérations. Il y a dedans également un article du Monde qui relate les différentes histoires autour de l'apologie du terrorisme et de son retour en force avec des personnes condamnées à plusieurs mois de prison ferme pour avoir dit des trucs du genre « vive Daesh », la plupart du temps complètement bourré. Un inventaire non exhaustif des joies de l'état d'urgence qui va de l'interdiction de la vente d'alcool entre 20h et 8h par la préfecture du Nord à deux personnes qui se font sauter dessus par les flics, leur tort, les deux potes étaient en train de regarder un film d'action, leur voisin de place ont trouvé leur comportement suspect. En passant bien sûr par toutes les manifs interdites et les nombreuses assignations à résidence, et pour finir, et comme tout le monde en a entendu parler, un homme qui menaçait des policiers avec un couteau est abattu en pleine rue sans aucune arme non létale qui n'était utilisée avant. L'acte de cette personne manifestement déséquilibrée est tout de suite qualifié de terrorisme. On retrouve également des témoignages de personnes qui ont subi directement les perquisitions, les assignations à résidence, etc. Certains racontent la stigmatisation que cela crée par rapport à ses voisins de se faire perquisitionner après les attentats. D'autres racontent le sentiment d'impunité d'une police qui se sent toute puissante. Le but de la brochure n'est pas seulement de faire un inventaire à l'après-Vert de ce qui peut se passer sous ce régime d'exception qu'est l'état d'urgence, mais de faire juste le constat que tout régime ou mesure d'exception vise à se généraliser, la BAC par exemple, les centres de rétention, les EPM, etc. Il y a donc fort à parier que celui-là se généralise également, sous sa forme actuelle ou sous une forme faussement allégée, d'en prendre acte et de s'organiser en conséquence sans baisser les bras.
Et donc, il y a eu des perquisitions dans les réseaux d'extrême droite en Gironde. Trois perquisitions administratives ont abouti à l'interpellation d'au moins deux personnes et à la saisie d'une trentaine d'armes, ça c'était hier, donc le mardi 18 janvier. Les individus concernés étaient apparemment connus de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Ces perquisitions ont visé un père et son fils. Donc une trentaine d'armes à feu, dont des fusils et des carabines, ont été saisies au domicile du père, à Belin-Bélier, ainsi que 200 kilos de munitions de tout type et du matériel permettant la confection artisanale de munitions à base de sulfate de potassium. Et au domicile du fils, à Libourne, trois armes longues, fusils ou carabines, qui n'étaient pas autorisées ou déclarées, et 300 munitions ont été saisies. Il avait été condamné en 2014 à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir lancé un cocktail Molotov sur la mosquée de Libourne en 2012. Et la troisième perquisition s'est déroulée à Apessac, chez la compagne du fils, où trois armes ont été également découvertes.
Quelle famille !
Oui, et puis voilà, les perquisitions administratives, il y en avait eu quelques-unes juste après les attentats en novembre. Là, il y en a. Ils vont chercher autour des enquêtes qu'ils connaissaient déjà avant, et il n'y a pas particulièrement là-dedans de menaces de terrorisme, vous voyez. Bref, en tout cas, la Ligue des droits de l'homme demande la fin de l'état d'urgence. Donc c'est plus du côté légal que ça se bouge de manière juridique pour tenter de suspendre l'état d'urgence. Donc quand certains s'interrogent sur la nécessité de prolonger l'état d'urgence au-delà de son terme prévu au 26 février, eux, la Ligue des droits de l'homme, par contre, estime que ce régime d'exception a déjà trop duré. Donc, hier, l'association a saisi le Conseil d'État pour demander la suspension de l'état d'urgence, sinon d'enjoindre au président de la République d'y mettre fin sans délai. Saisie en référé liberté, la haute juridiction administrative a déjà fixé l'audience au mardi 26 janvier. Il chôme pas. Et donc, si l'état d'urgence a été prolongé pour 3 mois par la loi du 20 novembre 2015, en fait, le chef d'État peut y mettre fin à tout moment. Vous vous rappelez, en 2005, c'est ce que Jacques Chirac avait fait. Il avait mis fin le 4 janvier 2006, alors que le Parlement avait voté une prolongation de 3 mois qui allait jusqu'au 18 février. Donc, eux, vraiment, c'est ça qu'ils demandent dans leur point. Pour résumer, c'est suspendre au moins les perquisitions administratives et l'interdiction des réunions publiques. Bon, il y a plus de choses, mais en substance, c'est ça. Et alors, je cite, la persistance de l'état d'urgence plus de 2 mois après son déclenchement est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales. Ça, c'est dans la requête au Conseil d'État que c'est écrit noir sur blanc. Et également le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler. Donc le débat devant le Conseil d'État, donc le 26, va amener le gouvernement à devoir justifier de façon très détaillée la nécessité opérationnelle et juridique de prolonger les mesures de l'état d'urgence, au moins donc jusqu'au 26 février. Voilà, c'est légaliste. Alors on en pense qu'on veut, mais moi ça pousse l'État dans ses retranchements à s'expliquer. Voilà. En écho, le Conseil constitutionnel va se pencher sur 2 questions prioritaires soulevées par la LDH, donc sur la conformité de la Constitution des perquisitions administratives et de l'interdiction des réunions. Voilà. Après, on sait aussi très bien que le gouvernement veut mettre en place une nouvelle loi antiterroriste qui rendra constitutionnel et quotidien plusieurs mesures qui sont seulement autorisées pendant l'état d'urgence. Alors bon, voilà, c'est un petit rouage... un petit grain de sable dans la machine.
Et y a la LDH et le syndicat des avocats qui ont créé un observatoire des dérives de l'état d'urgence dans le Rhône. Alors leur but est de dénoncer toutes les affaires qui sont traitées avec les dérogations autorisées par l'état d'urgence sans que celles-ci ne soient en rapport avec le terrorisme direct, trafic de stupéfiants, pression sur des militants, etc. etc.
Et il n'y a pas que dans le Rhône, il y a dans plusieurs régions à Toulouse que oui. Ce genre d'observatoires sont lancés.
Exactement, ouais. À Lyon, ils ont juste été un tout petit peu plus loin de la détente que dans les autres villes. La LDH rappelle que l'ONU a déclaré que la France impose des restrictions excessives et disproportionnées sur les libertés fondamentales. Et elle préconise de ne pas prolonger l'état d'urgence après le 26 février. Et ben, on verra bien ce que
ça c'est l'ONU, ça, elle préconise.
Voilà, c'est ça. Elle dit, hein, c'est comme. C'est comme les droits de l'homme, c'est une préconisation. Après tout, on n'est pas complètement obligé de les respecter. Mais...
Et maintenant, je vais parler de statistiques sur les actes racistes en France. Ah, pardon.
Non, bah vas-y, c'est pas grave, je ferai après.
Je suis désolée. Alors, c'est des chiffres, c'est donc à prendre avec des pincettes, des statistiques, voilà. Mais quand même, les chiffres... Les chiffres ne reflètent pas la vérité, mais ils sont quand même des indicateurs. Et nous n'avons pas besoin de chiffres pour s'être rendu compte des malheureuses augmentations des actes racistes anti-musulmans cette année. Mais pour celles et ceux qui ne se fient qu'au rapport officiel, en voilà un. Donc, selon ce rapport publié aujourd'hui, ce mercredi, les actes racistes anti-musulmans et antisémites ont bondi de 22% en 2015. Donc, en fait, les actes antisémites, ils ont baissé, mais c'est les actes racistes et anti-musulmans qui ont bondi. Et donc, en 2015, par rapport à 2014, avec notamment, pour les actes contre les musulmans, un pic après les attentats de janvier et de novembre. Au total, c'est 2032 actes et menaces racistes qui ont été enregistrées en 2015, selon les chiffres communiqués par la DILCRA. Et la DILCRA, c'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, ce serait un triplement des actes anti-musulmans. Donc, à 429 au total. Et ça, c'est sans compter tous les actes commis par les flics.
Allez, on fait un tour du côté de Notre-Dame-des-Landes, où l'Assemblée générale du mouvement, hier, a pondu un texte de pré-appel pour le 27 février, mobilisation générale pour l'abandon du projet d'aéroport. Préparez-vous. Les zadistes nous disent que la mobilisation des derniers jours a été formidable grâce à la force de la manifestation sur le périphérique à Nantes, mais aussi du fait de la multiplication des actions et rassemblements dans des dizaines d'autres villes en France. Il est clair que le mouvement anti-aéroport est plus dense et plus vivant que jamais. Et c'est parce qu'il est, et tout ça pensent les gens, les zadistes, c'est parce que ce mouvement est devenu emblématique de beaucoup d'autres luttes contre les destructions environnementales et sociales, contre la disparition des terres agricoles, contre le changement climatique, la marchandisation du territoire et de nos vies. Et c'est aussi parce que ce mouvement pousse à l'invention d'autres manières d'habiter le monde. Mais le gouvernement s'enferme dans sa surdité. Les paysans, paysannes, habitants et habitantes de la ZAD sont toujours menacés d'expulsion. Le démarrage des travaux du projet d'aéroport est toujours annoncé à court terme. Le mouvement appelle donc à continuer les actions durant les semaines qui viennent et à être particulièrement attentif au jugement qui sera rendu le 25 janvier. Alors on se rappelle, on en a parlé la semaine dernière, c'est le dernier appel pour l'expulsion de paysans historiques de la ZAD. Qui sont toujours là et donc qui devraient être expulsés, mais le tribunal doit encore se prononcer et le verdict sera donné lundi prochain. Toutes les composantes de la lutte appellent aussi à une journée de mobilisation massive et générale pour le 27 février. Cette mobilisation aura pour mot d'ordre l'arrêt des menaces d'expulsion sur les paysans et paysannes et habitants et habitantes de la ZAD, ainsi que l'abandon définitif du projet d'aéroport. Nous invitons tous les comités et soutiens à mobiliser très fortement et dès maintenant pour cette date. Nous vous appelons tous et toutes à commencer dès aujourd'hui à lui donner le relais le plus large possible. Nous invitons les unes et les autres de la région, des quatre coins de l'Hexagone et au-delà, à organiser des convois et des bus pour rejoindre cette grande mobilisation. Les formes de ce rendez-vous du 27 février seront définies par le mouvement en fonction du contexte. Un appel plus précis arrivera après le résultat du procès le 25 janvier. Et celles et ceux qui habitent et cultivent la ZAD ne la quitteront pas. Il n'y aura jamais d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et enfin, ajoutons pour les gens qui habitent le Pila qu'il y a d'ores et déjà un concert qui est organisé. C'est le vendredi 12 février et ça sera à Saint-Julien-Molin-Molette.
Alors, notre très cher gouvernement prend soin de ne laisser passer vraiment, vraiment aucune loi qui serait à peu près de gauche, quoi. Alors là, il s'agit de la loi Allure, qui est la loi sur le logement de Cécile Duflot, qui vient une nouvelle fois de se faire taillader. Alors, une de ses principales mesures était la garantie universelle des loyers, autrement appelée le GUL, ou la GUL. Un truc qui ferait que, en gros, tout locataire n'aurait plus de besoin ni de caution ni de garant et serait donc une espèce de caisse gérée par l'État. Enfin, ça aurait été une caisse qui aurait été gérée par l'État à part et qui aurait réglé aux proprios les loyers impayés. Elle aurait été financée notamment par une taxe sur les loyers partagée entre le locataire et le propriétaire. Le gros avantage de cette mesure, c'est que comme ça concernait vraiment tout le monde, il ne pouvait pas y avoir de discrimination à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est pas comme plein de trucs un peu sociaux où quand t'arrives en train de... t'es mis en concurrence avec 10 personnes sur un appart, tu sais qu'il y a un espèce de truc social, il faut aller, toi t'es gentil, tu te dégages. Le gouvernement a tout simplement supprimé cette mesure par un truc qui s'appellerait VISAL. Alors bon, c'est vraiment pour dire qu'il faisait un truc, c'est là ça concernerait que les personnes en CDD ou en CDI en période d'essai et les intermittents. Bref, vous imaginez bien que si vous vous ramenez avec une espèce d'attestation, je sais pas comment ça se ferait, VISAL, une fois que vous aurez tourné le dos, de l'agence mettra gentiment votre dossier à la poubelle. Pour accéder à un logement, bah voilà, quand on est pauvre, le plus simple reste encore de leur filer de fausses fiches de paye pour leur montrer qu'on gagne bien 3 fois le loyer sans problème, mais oui, comme tout le monde. Mais attention, les agences vérifient de plus en plus en appelant le numéro de téléphone de l'employeur. Petit avertissement.
Et pour continuer dans la même optique, qu'aucune loi de gauche ne passera, c'est par rapport à la modification de la mention du sexe à l'état civil. Donc c'est les personnes transgenres qui luttent pour modifier plus facilement la mention de leur sexe à l'état civil. Et donc je relaye ça aujourd'hui parce qu'il y a une tribune de Denis Quinqueton, qui est président d'Homosexualité et Socialisme, et Corinne Narasinghe, qui est porte-parole du PS, qui ont signé donc aujourd'hui une tribune dans l'Obs, rappelant que la France a encore des progrès à faire sur la question de la transidentité. Et pourquoi je fais un lien avec les lois de la gauche là, c'est que devait être traitée à l'Assemblée en février la loi relative à la modification de la mention du sexe à l'état civil, qui avait été déposée en septembre 2015. Mais là, François Hollande a dit d'une manière très austère et concernée.
Et solennelle,
qu'il fallait s'occuper des vraies choses et du coup de l'économie et de la sécurité dans tout ce contexte post-attentat. Et que,
on n'a pas que ça à faire d'aller.
Il n'y avait rien à foutre de ces gens. Donc, dans cette tribune de l'Obs, ils redemandent à ce que ce projet de loi-là soit remis à l'ordre du jour de l'agenda. Donc, vu comment l'histoire là du mariage a mis du temps à passer, on peut se dire que là, ça va encore peut-être prendre une dizaine d'années.
C'est combien de manifs ?
Ouais. Bon, alors je vous raconte quand même ce qu'il y a dans ce texte parce que voilà. Donc, il vise à faciliter le processus donc pour les personnes qui vivent parfois pendant de longues années en conflit entre leur identité légale et celle perçue par la société. Donc, ça engendre bien évidemment des discriminations et le rejet de collègues ou de gens de l'entourage. Donc, cette proposition de loi supprime la condition médicale d'irréversibilité de la transition. C'est-à-dire que les opérations chirurgicales, notamment de stérilisation, ne seraient pas obligatoires, ce qu'il est actuellement. Donc elles seraient plus obligatoires. Et notamment pour, dans les tribunaux, là, ils demandent des examens médicaux. Vous voyez que les médecins, ils vous auscultent des pieds à la tête pour savoir si vous êtes définitivement irrécupérable et donc on peut vous filer des bons papiers. Bon, et voilà, bon. Certains pays comme Malte, l'Argentine, le Danemark, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, je crois aussi, autorisent le changement d'état civil par simple déclaration. Parce qu'il faut en vouloir quand même. Je veux dire, tout le monde ne va pas s'amuser comme ça à changer son état civil. Donc je pense que ça pourrait être fait mention, du moins modifié avec mention sur l'honneur, plus que en devant passer sur le billard. Voilà. Donc ça, afin de respecter et améliorer les droits des personnes trans.
Alors, une première étude de l'ONG Oxfam montre que les 62 personnes les plus riches du monde possèdent les mêmes richesses que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres du monde. Hein, 62, hein, y a eu dans un journal, j'ai vu, c'est une comparaison, c'est à peine plus qu'un bus. Hein. Faudra tous les mettre dedans d'un coup, puis hop, on leur fait les poches. Sur les 62, donc 53 sont des hommes, la moitié vit aux États-Unis, 17 en Europe, et le reste se partage entre la Chine, le Brésil, le Mexique, le Japon et l'Arabie Saoudite. Alors, autre chiffre un peu spectaculaire, les fameux 1% dont vous avez certainement entendu parler. En gros, c'est les 1% les plus riches qui possèdent autant que les 99% autres. Hein. Vous faites partie des 99% en général. Si vous nous écoutez, il y a plus de chances quand même. Ou alors, on demande de l'argent. Oxfam avait prédit qu'en 2016, les richesses des 1% dépasseraient ceux des 99%. Eh bien, Oxfam s'est planté. Mais ils sont juste plantés sur la date, puisque cela est arrivé en 2015. Alors, du côté de la France, l'étude montre que les 10% des Français les plus riches se sont attribués 54% de l'augmentation des richesses entre 2000 et 2015. C'est-à-dire en pleine crise financière, quand même.
Ils savaient où bien placer, quoi.
Exactement. Mais si vous êtes des super braqueurs et que vous nous écoutez, l'étude révèle que 7600 milliards de dollars sont planqués dans des comptes offshore. Alors allez-y, faites-vous plaisir, mais surtout n'oubliez pas qu'est-ce qui vous a filé le tuyau. Hein. Donc en gros, pour résumer, c'est la crise, mais les plus riches s'en mettent plein les poches pendant qu'ils font disparaître l'argent pour ne pas payer d'impôts. Ils vont planquer sous leur hamac doré en attendant, en attendant des jours meilleurs. Et pendant ce temps, on nous fait chier pour des fraudes à la CAF et la Cour des comptes demande au gouvernement de baisser les indemnités de chômage parce que c'est bien connu, les premiers sur qui il faut servir, c'est les chômeurs et les précaires. De là à faire un lien avec la seconde étude, il n'y a qu'un pas. Mais pour la première fois depuis 1969, l'espérance de vie baisse. Alors depuis 1969, on avait gagné 10 ans d'espérance de vie, c'est beaucoup. Et donc en 2015, nous avons perdu 0,3 années de vie pour les hommes et 0,4 années pour les femmes.
Et il y a un lien avec certains événements climatiques apparemment de l'été qui auraient zigouillé un petit peu du monde.
Notamment une canicule qui aurait fait un peu canner plus de vieux que d'habitude.
Si on parle un peu climat, on peut faire une digression sur l'énergie. Et vous le savez tous et toutes, il y a deux baguettes magiques absolument fantastiques pour produire l'énergie. La première, c'est le nucléaire, on en parlera tout de suite après. Et puis, la seconde, c'est le gaz de schiste. Alors, le gaz de schiste, c'est extraordinaire. Ça permet de rester dans cette superbe société productiviste avec le mot d'ordre de la croissance qui est donc appuyé par des ressources énergétiques sans fin. Donc ça, c'est le premier point. Problème un peu technique. Et puis le deuxième problème est un peu plus fondamental, c'est que c'est de nouveau une relation de domination en plus. On voit de nouveau cette domination sur les ressources naturelles, sur les écosystèmes qui se produisent donc avec cette pensée très heureuse. Alors c'est un article du Temps qui nous parle de ce qui se passe dans l'Oklahoma au travers de ce gaz du schiste. Alors, en fait, le 6 janvier, il y a eu deux séismes d'une magnitude de 4,7 et 4,8 qui ont secoué la région. Alors, le rapport avec le gaz de schiste, vous allez le voir. Il y a eu l'une des secousses en début octobre 2015 qui a eu lieu à la proximité de la ville de Cushing. Et cette ville, c'est juste pour l'anecdote, elle abrite un énorme complexe de stockage de brut. Donc, imaginez le truc. Il y a des tremblements de terre à proximité de 60 millions de barils d'or noir qui sont mis dans des cuves et que ça pourrait un petit peu ébranler. Alors, donc, 2015, l'Oklahoma, plus de 900 tremblements de terre d'une magnitude proche de 3. Ça fait 2,5 tremblements de terre par jour. Et pour 2016, a priori, il devrait y avoir un peu plus, la barre des 1000 séismes devrait être franchie. Et quand même, cette région n'avait enregistré que 21 séismes entre 1973 et 2008. Alors la cause de cette activité sismique, vous vous en doutez, c'est cette fracturation hydraulique qui sert à extraire donc le gaz et le pétrole de schiste et la multiplication des sites de forage. Alors juste rapidement, la fracturation hydraulique, c'est on fait un trou d'un kilomètre, je crois. On va aller dans des poches où il y a du gaz et en fait, on envoie plein d'eau pour faire sortir le gaz. Alors l'eau d'où elle vient, je ne vous dis pas. Hein. Mais en tout cas, d'où elle ressort, elle ne sort pas au bon endroit, ça c'est sûr. Alors depuis 2008, l'Oklahoma, c'est un peu à l'image des États-Unis, c'est le boom pétrolier, le deuxième boom pétrolier grâce donc à cette révolution super géniale de l'hydrofracturation. Et évidemment, ça a des effets secondaires, il faut en parler jour et nuit. Des volumes considérables d'eau usée et des produits chimiques qui sont envoyés dans les forages, qui sont réinjectés dans les formations de schiste. Alors ils sont injectés et puis après ils ne vont pas les sortir et les laver à la machine. Il reste dans le coin et il y a certains sismologues qui disent qu'en plus d'aspects de pollution qui sont dramatiques, cette fracturation hydraulique avec toute cette eau, ça a tendance à soulever des plaques et donc ça crée ces superbes tremblements de terre donc du côté de cet état l'Oklahoma. Alors la gouverneure de l'État qui est républicaine, au début elle a dit que il n'y avait pas de problème, donc, c'était plus simple. Après, elle a eu quelques preuves scientifiques qui lui ont fait changer d'avis. Mais d'ailleurs, justement, les scientifiques, alors il y a l'Oklahoma Geological Survey, qui est une instance scientifique, qui dit que, bon, bah, eux, ils avaient des conclusions, mais ils ont quand même subi un peu des pressions de la part des sociétés pétrolières pour pas qu'ils disent trop ce qu'ils pensent. Voilà. Voilà, toujours sur l'Oklahoma, juste pour dire que dans le New York Times, il y a Daniel Nemara, qui est un géophysicien, qui a l'air très sérieux, qui dit qu'il y aura une forte chance que l'Oklahoma soit confronté à une forte secousse bientôt. Alors dans le même style, cette fois-ci c'est dans Basta, un article qui s'appelle « L'Amérique défavorisée, proie de l'industrie du gaz de schiste ». Je vous en dis deux, trois lignes. En gros, c'est comme d'habitude, hein, c'est celles et ceux qui sont un petit peu déjà blessés, eh bien, qui sont les cibles de l'industrie du gaz de schiste. Alors ça se passe par exemple dans cet article dans l'une des régions les plus pauvres des États-Unis, dans la ville de Youngstown, dans l'Ohio. Eh bien voilà, c'était déjà une ville qui était frappée par le badaboum de la désindustrialisation. Et là, cette fois-ci, c'est l'expansion du gaz de schiste, mais ça peut être dans votre jardin. C'est-à-dire que vous êtes un petit propriétaire, ou bref, il mentionne qu'a priori, il doit y avoir beaucoup de propriétaires par là-bas. Ça peut arriver dans votre jardin, puisqu'il y a une opacité assez délirante. Alors, je vous cite un petit peu ce que nous disent les habitants de Youngstown, qui dénoncent une situation d'opacité totale. Les droits sur les sous-sols sont transférés d'entreprise à entreprise, et les autorisations accordées sans aucune consultation du public ou même du voisin. Et de terminer, quelqu'un peut découvrir du jour au lendemain qu'un forage de gaz de schiste ou un puits d'injection s'installe sur le terrain juste à côté. Voilà. Alors si c'est juste à côté, c'est mieux que dans son jardin, mais à mon avis, ça doit exister aussi. Voilà, juste pour finir cette digression sur nos amis les énergies clean, propres, juste pour préciser que Ségolène Royal, elle a parlé du nucléaire, parce que vous vous rappelez que le nucléaire, c'est quand même le truc qui fait que l'électricité, c'est pas cher. Le nucléaire, c'est vraiment, vraiment pas cher, bien sûr. On y croit tous. Et alors, il y a ce truc abominable qui est le site d'enfouissement des déchets de radioactifs qui va avoir lieu, être creusé à Bure. Ça va coûter 30 milliards d'euros, elle a dit, elle a sorti le chèque. Enfin, c'est 25 milliards. Donc, de nouveau, le nucléaire, ça coûte rien, bien sûr. Et juste pour terminer, sur le côté, on nous met des couches de beurre sur le dos à propos du nucléaire. Ça, c'est David Pujadas. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui fait souvent des piges à Radio Canu, mais c'est celui qui fait les infos sur la 2, c'est ça. Hein. Alors, la relance du débat sur le nucléaire, proclame David Pujadas. Alors là, on se dit, oh putain, cool, on va enfin dire que c'est de la merde. Eh ben non, parce qu'en fait, le débat sur le nucléaire, c'est de savoir si, en fait, on peut garder les réacteurs 40 ou alors 50 ou alors peut-être 80 ans, comme aux États-Unis. Voilà. Et alors, le début, ils ont pris, j'ai trouvé un snapshot, comme on dit, du démarrage du reportage, et c'est nucléaire. 80 ans d'âge, donc imaginez-vous que quand même, les centrales, plus elles prennent de l'âge, mieux elles sont. Voilà.
C'est comme le vin.
C'est génial. C'est comme le vin.
C'est voilà. Avec l'âge.
Et ben, je crois que le vin vaut mieux en boire que d'écouter ça quand même. Hein.
Et à Calais, des expulsions à venir. Donc, petit rappel, donc ça fait depuis octobre 2015. L'État construit un camp fermé sur la zone existante pour loger 1500 résidents. Le 5 janvier, la municipalité de Calais a annoncé qu'elle tolérerait seulement 2000 personnes vivant sur la zone et a commencé à forcer les gens à aller dans ce nouveau camp de conteneurs. À côté du camp Jules Ferry. Rappelons qu'avant, les gens ils squattaient un peu partout dans les forêts et que maintenant, ils sont dans des camps organisés par l'État. Donc le Jules Ferry, il a été fait sur une décharge publique, ne l'oublions pas. Et là où sont accueillies 500 personnes, on va plutôt dire sont concentrées 500 personnes, et où la vie est beaucoup plus dure pour les migrants qui arrivent actuellement à Calais qu'il y a quelques temps, où il y avait un peu plus d'espace pour s'organiser, on va dire. Donc ces camps sont maintenant contrôlés par l'État et ils veulent tolérer chaque fois 2000 personnes. Alors, je sais pas ce qu'ils feront des, s'il y a 2100 personnes, ce qu'ils feront des 100 personnes, je pense qu'ils feront comme là, ce qu'ils ont fait et enclenché cet automne, c'est-à-dire prendre des bus et aller foutre les gens un peu partout dans la France, histoire qu'ils remettent quelques semaines à remonter à Calais et en espérant que les autres soient un peu passés, qui aient passé à frontière, je sais pas. C'est vraiment, ils gèrent de manière complètement hallucinante la misère, quoi. Donc, je vais vous relayer l'appel de personnes de Calais. Donc, nous appelons les gens à venir sur Calais en janvier, nous aider à combattre et résister avec les gens de la jungle pour, par tous les moyens possibles. Venir et manifester contre les violences policières, combattre les gouvernements qui les créent et saper les fachos qui les soutiennent. Nous vous appelons à lutter contre les frontières qui sont un outil de pouvoir et de contrôle, non seulement à Calais, mais où que vous soyez. Liberté de circulation pour toutes. Le système des frontières doit tomber. Et il précise, et c'est important, si vous avez, et c'est important d'aller à Calais si vous avez un peu de temps, mais s'il vous plaît, venez préparer. Il faut vraiment amener des tentes ou une camionnette ou avoir son propre matériel de couchage ou des endroits à dormir à Calais. Parce que bah, tout le monde cherche une place où dormir et c'est pas simple. Donc pour pas rajouter aux snowboarders et autres personnes militantes là-bas qui galèrent déjà à trouver des logements pour plein de migrants, de pas vous rajouter en plus dans cette longue liste. Voilà, donc être autonome sur le terrain. Voilà.
En Turquie maintenant, alors la semaine dernière, plus de 1200 intellectuels turcs en particulier, mais aussi quelques-uns étrangers, avaient signé une pétition pour la paix, une pétition qui dénonçait les massacres commis par les forces de sécurité turques pendant les opérations qui sont en cours en ce moment contre le PKK dans plusieurs villes sous couvre-feu. Bon, sur le coup, le président Erdogan avait déjà immédiatement réagi en qualifiant les gens qui avaient signé la pétition de traîtres et en les accusant de complicité avec les terroristes du PKK. Alors aujourd'hui, Erdogan a averti les intellectuels qui ont signé cette pétition qu'ils paieraient le prix de leur trahison. Donc il a fait un discours aujourd'hui devant des élus locaux à Ankara et dans ce discours il a dit des choses comme « Alors vous croyez que vous allez pouvoir remettre en cause l'unité de cette nation et continuer à mener une vie confortable grâce au salaire que vous recevez de l'État sans en payer le prix, cette époque est finie. »
Ah bon lui hein.
Il a ajouté « dans un état de droit comme la Turquie. » Oui, oui, Erdogan trouve encore que la Turquie est un état de droit. Des soi-disant intellectuels qui menacent l'unité de la nation n'ont pas le droit de commettre des crimes. Ils n'ont pas d'immunité. Donc de nombreuses procédures judiciaires ont été lancées dans tout le pays et plusieurs universités, puisqu'une bonne partie de ces intellectuels sont profs à la fac, donc plusieurs universités ont engagé des procédures disciplinaires contre les pétitionnaires. La semaine dernière déjà, donc juste après que la pétition soit sortie, une vingtaine des signataires avaient été placés en garde à vue par la police. Après, ils ont été relâchés. Aujourd'hui, il y en a trois autres qui ont encore été arrêtés, qui ont été interrogés dans le cadre d'une enquête ouverte par le procureur de la ville de Sakarya pour propagande terroriste, insulte à la Turquie et à ses institutions. Sur les trois, il y en a deux qui ont été remis en liberté au moment où, en tout cas, où j'ai trouvé l'article tout à l'heure. Là, et le troisième était encore à l'intérieur. Tous, de toute façon, risquent des peines de 1 à 5 ans de prison, donc pour, en gros, apologie du terrorisme, quoi. Ces accusations ont suscité un tollé en Turquie et à l'étranger, où les critiques de M. Erdogan ont dénoncé une atteinte à la liberté d'expression. Enfin, quand on dit un tollé, on se rappelle quand même que l'Union européenne, qui alors passe son temps à quand même ces derniers temps, bah, passe une petite partie de son temps, mais quand même, à menacer en particulier les fachos qui ont été élus en Pologne et aussi en Hongrie, parce qu'ils exagèrent vraiment très fort. Mais Erdogan, qui exagère quand même aussi fort, largement aussi fort, et ben lui, l'UE est quand même très contente de négocier avec lui, en particulier pour qu'il s'occupe, avec ses méthodes de démocrate, hein, de bloquer les réfugiés pour les empêcher d'arriver jusque vers chez nous. «
Bon, on va rester du côté de la diplomatie courage. Diplomatie courage avec ce qui se passerait entre la Suède, le Maroc et le Sahara occidental. Pour celles et ceux qui ont un petit peu oublié l'existence de ce territoire, on va en reparler quelques secondes. Alors, voilà, je vous explique, hein, y a un gros problème, c'est que depuis près de 4 mois, le premier magasin, alors je dis BIP, enfin IKEA, bon, du Maroc, et voilà, et il faut savoir que c'est le deuxième d'Afrique après celui du Caire, voilà, il devait ouvrir ses portes prochainement, et puis en fait l'inauguration était pour le 29 septembre 2015, mais elle a été reportée in extremis, donc je rappelle, hein, c'est le premier magasin IKEA, donc au Maroc. Elle a été reportée in extremis pour absence, visiblement, dans le dossier d'un mystérieux certificat de conformité. Alors voilà, en fait, faut être très 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 clair. Hein. C'est juste que le royaume marocain, eh bien, il fait payer au royaume scandinave, c'est entre royaumes, son intention de reconnaître l'indépendance du Sahara occidental. Alors heureusement, la ministre suédoise des relations extérieures, Margot Wallström, a été très courageuse pour le magasin. Et a annoncé dans un communiqué vendredi que son pays renonçait à l'ouverture d'IKEA. Eh ben non, renonçait à rejoindre les 80 pays. Petite précision, aucun de l'Union européenne, parce que on est quand même aussi dans la diplomatie courage du côté de l'Union européenne. Donc, la Suède renonce à rejoindre les 80 pays qui reconnaissent non pas IKEA, mais l'indépendance du Sahara occidental. Voilà. Donc c'est quand même assez glauque. Voilà. À la place, c'est le gouvernement du Premier ministre Stefan Löfven qui devrait soutenir les efforts de l'ONU pour trouver, c'est ça l'ONU, hein, une solution juste et mutuellement acceptable entre Rabat et le Front Polisario, sachant que ces deux parties qui sont absolument pas réconciliables. Donc, on va quand même rappeler ce que c'est un petit peu le Sahara occidental. Donc, tout a commencé, entre guillemets, avec la chute de Franco. Il y avait une colonie qui s'appelait le Rio de Oro, donc c'est actuellement le territoire qui est sous le Maroc, sauf que eux ils considèrent que c'est intégré dans le Maroc, donc sous le Maroc, on va dire sur Radio Canu, et au-dessus de la Mauritanie. Et l'Espagne a démembré en toute hâte cette colonie, le Rio de Oro, entre ses voisins le Maroc et la Mauritanie, donc ça s'est fait comme ça, sans consulter les populations de la région, qui sont a priori des berbères nomades musulmans, qui ne parlent même pas l'arabe dialectal du Maroc, donc ils n'ont rien à voir avec le Maroc, mais qui parlent plutôt l'assania, qui est la langue des Mauritaniens, donc ils sont plutôt du côté Mauritanie. Et puis du coup, il y a eu un conflit armé qui a opposé ces malheureux Sahraouis partisans de l'indépendance et l'armée marocaine. Ça a chauffé jusqu'en 91. Il y a donc eu ce front Polisario, qui est en fait le mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Et donc depuis 91, ça s'est juste figé. Le Maroc.
Entièrement, non. Il y a 4 ou 5 ans, il y avait une histoire de massacre à La Hayoune.
Alors, quand je te dis que ça s'est figé, c'est peut-être au niveau des frontières fictives qui existent, mais c'est sûr que c'est pas une histoire terminée, en particulier puisque l'Algérie est aussi dans l'histoire. Donc bref, donc depuis 91, ce qui est figé, c'est que le Maroc occupe 80% de l'ancien territoire et exploite les ressources, fait de la pêche sur sa façade atlantique, il y a des mines de phosphate, enfin rien qui de toute façon peut servir à aider donc les Sahraouis.
Mais c'est
donc,
parce que si ça avait été qu'une histoire de banc de sable, je pense que le conflit aurait duré beaucoup moins longtemps.
Non, et puis ça doit pas être trois poissons non plus, hein. Ça doit être quand même plutôt autre chose. Juste pour conclure que le Front Polisario, lui, est replié dans les 20% qui restent, qui sont tout simplement totalement désertiques, et que les deux parties sont séparées par quelque chose qui est très à la mode. On n'en trouve pas chez IKEA, mais c'est très à la mode actuellement, c'est les murs. Les murs de séparation, et celui-là il est particulièrement révoltant. C'est un mur de près de 30 000 kilomètres qui est érigé par les Marocains, et faut noter aussi qu'une forte population des réfugiés sahraouis, donc ça se compte en centaines de milliers, qui survit dans des camps en territoire algérien. Voilà, c'était pour mentionner la diplomatie courage de la Suède.
Mais pas du tout.
Non, tu as fait une fausse annonce.
Mais ouais, c'était la fin de la musique. Bref, c'était juste une petite musique de transition. Mais c'est à qui du coup? Tout le monde, j'ai perdu tout le monde là.
Donc,
vous êtes bien sûr Radio Canu, c'est toujours l'heure du Canu Info et pas de la rubrique, il faut que ça se sache.
Alors, ça va être macabre. C'est en Israël des cadavres qui sont pris en otage. Donc, c'est ça. Pour empêcher que les Palestiniens ayant attaqué des Juifs au couteau ne soient célébrés comme des martyrs, l'État hébreu ne rend les dépouilles aux familles que sous condition, voire pas du tout. Donc, je cite, c'est la chose la plus terrible que puisse arriver. Vous perdez quelqu'un que vous aimez et vous ne savez même pas où il est. C'est une personne qui a perdu ses deux frères aînés, qui étaient tous deux impliqués dans des attaques et qui sont morts les 22 et 27 novembre. Et là, ils ont été enfin enterrés à Ramallah le 1er janvier. Ça a pris un moment pour que ça se débloque. Donc, depuis des décennies, les autorités israéliennes gardent certaines dépouilles de Palestiniens ayant participé à des attaques. Donc, fini les enterrements pour respecter un peu la dignité des personnes, les dépouilles sont devenues une monnaie d'échange et de pression politique. Donc, lors de négociations avec l'autorité palestinienne, la remise de corps a pu servir de gage de bonne volonté. Mais nombre d'entre eux n'ont jamais été rendus et sont enterrés dans ce qui s'appelle les cimetières des nombres, des parcelles de terre piquées de plaques numérotées. Le Hamas, dans la bande de Gaza, a donc opté pour la même pratique. Donc il retient notamment depuis 2014, donc c'est beaucoup plus récent, les corps de deux soldats israéliens dans l'idée de les échanger contre ces hommes emprisonnés en Israël. Donc dès les premiers échauffourées et attaques en octobre, donc le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ainsi que le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, se sont exprimés en faveur de la rétention des corps. Bien sûr, vous voyez, vous imaginez des déclarations publiques de ces deux zigotos pour dire, bien sûr, il faut... ils n'ont pas de latch, quoi. Ça, que ça se fasse, vous voyez, en douce, que tout le monde sache que ça se fasse, mais en douce, quoi. Que là, ils font des déclarations publiques là-dessus. Oui, on va faire de la rétention des corps. Donc, ils ont présenté la mesure comme une manière de calmer le jeu en empêchant la célébration des attaquants comme martyrs. Donc, cet automne, des funérailles à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, ont rassemblé des milliers de personnes. Et donc, eux, ils disent comme... comme les célébrations funéraires, c'est des occasions d'appel à l'émeute, on va empêcher que les corps reviennent en Cisjordanie pour empêcher que les gens ils se rassemblent et qu'ils aient la mort, quoi. Je veux dire, ils sont vraiment absolument vicieux, quoi. Donc les autorités israéliennes posent plusieurs conditions à la remise des corps aux familles. Donc il s'agit de les enterrer rapidement, sans tapage. Oui, c'est abusé. Bref. Si possible, de nuit et sans autopsie. Donc, on ne vous refile même pas le corps de votre fils. Vous ne pouvez rien dire. Vous l'enterrez de nuit en vous cachant. Et voilà. Donc, une manière de faire taire les clameurs légitimes. Donc, en face, l'autorité palestinienne s'est, elle aussi, exprimée tout azimut. Donc, les corps ont été publiquement réclamé avec fureur, mais en coulisses, la direction des affaires civiles palestiniennes aurait plutôt poussé les familles à quand même accepter les conditions posées par Israël. Donc, plus de 20 morts ont été rendus aux résidents de la Cisjordanie dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ce qui a permis, donc, dans le début de l'article dont je vous parlais, là, d'une personne de pouvoir enterrer ses deux frères. Et par contre, à Jérusalem-Est et dans les faubourgs, la situation est plus délicate car les Palestiniens n'y ont pas le même statut administratif qu'en Cisjordanie. Et donc, c'est l'avocat d'une organisation non gouvernementale qui représente les familles auprès des autorités israéliennes et non l'autorité palestinienne, ce qui fait beaucoup moins de poids. Et donc, certains habitants de la ville attendent depuis plus de 90 jours le retour d'êtres chers. Et là, les négociations sont au point mort. La plupart des familles refusant de céder sur les deux prérequis, enterrer la personne hors de Jérusalem et de l'autre côté du mur de séparation. et payer une garantie de 5000 shekels, environ 1150 €, conservée si les funérailles sont jugées hors cadre par Israël. Donc ils veulent enlever la dignité, là, que la personne ne soit pas enterrée là où elle habitait, demander plein de thunes à la personne qui n'en a pas, etc. Et donc là, actuellement, il y a beaucoup de manifestations avec des personnes très précises qui se mettent en avant pour réclamer le corps de leur fils, etc. Et donc ça remue pas mal autour de ces questions en Palestine et en Israël.
Allez, on traverse quelques océans pour aller du côté de l'Argentine. Alors eux, ils n'ont pas un dénommé Macron, mais ils ont un Macri. Il s'agit du candidat libéral Mauricio Macri, qui a été élu, pour notre plaisir, le 22 novembre 2015. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il ne s'est pas bien caché longtemps. Et là, ce que je vous propose, c'est de voir dans quelle mesure, c'est Acrimed qui nous dit ça, donc c'est normal, c'est orienté sur les médias, dans quelle mesure Mauricio Macri a sorti le coupe-coupe sur les médias, un petit peu indépendant. Alors, il faut savoir quand même qu'en 2009, le gouvernement de Cristina Kirchner, qui avait, sur lequel on peut dire plein de choses, mais elle avait promulgué une loi assez ambitieuse en matière de démocratisation des médias audiovisuels, en l'occurrence. Elle avait pris des dispositions, le gouvernement avait pris des dispositions anti-concentration, et il y avait une égale répartition du spectre audiovisuel en trois tiers, médias publics, médias privés à vocation lucrative et médias privés à vocation non lucrative. Alors il y a eu une immense bataille juridique qui a été menée par le groupe Clarin, ou Clarine, qui est une grosse structure façon Bouygues Média, en tout cas, enfin un truc énorme. C'est quand même au bout de plusieurs années, donc c'est en 2013 que cette loi est passée, et ça a contraint ce fameux groupe Clarin à se défaire de certains de ces nombreux titres de presse. Alors on imagine que ces gros groupes de presse n'ont absolument rien à voir avec M. Macri, probablement que si. Cet ancien maire de Buenos Aires, qu'il avait déclaré son intention, alors qu'il n'était même pas candidat, enfin il n'était que candidat, mais il n'était pas président, il avait déclaré son intention de découper cette loi s'il accédait au pouvoir, et puis y aller. Il veut s'attaquer à l'esprit de la loi, surtout sur cet aspect d'anti-concentration qui avait donc fortement échaudé le secteur des médias privés à but lucratif, en particulier ce fameux groupe Clarin. Voilà. Alors donc, arrivé au pouvoir, donc Monsieur Macri a lancé l'offensive. Alors attention, accrochez-vous. 11 décembre. Alors c'est le lendemain de sa prise de fonction officielle. Donc il est quand même chaud bouillant. Y aller avec un décret d'urgence. Alors tout est d'urgence en ce moment, hein, c'est un peu pénible. C'est le numéro 13 et c'est la subordination des deux autorités de régulation des médias et des télécommunications au ministère des Communications. Voilà, il se trouve qu'en plus il a placé quelqu'un au ministère des Communications, donc les autorités de régulation sont sous la mainmise d'un copain. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, il y a eu d'autres choses étranges quelques jours avant. C'est le site internet du quotidien Pagina 12, qui est plutôt recommandable, qui a été victime d'une cyberattaque d'une rare ampleur. Mais bon, le hasard, voilà, on n'y peut rien, bien sûr. Sauf que c'est quand même un journal qui venait de passer à l'opposition, finalement, et qui s'est retrouvé pendant un certain temps réduit au silence, en tout cas pour sa version numérique. Mais ça, c'était peut-être fortuit. Bon, alors, vous suivez, on en est maintenant au 18 décembre. Cette fois-ci, ils ont décidé le non-renouvellement d'une émission très populaire, qui s'appelle 678. Alors, c'était une émission qui se présentait comme un espace de réflexion journalistique sur la manière dont les médias rendent compte de la réalité. Voilà. Donc ça, rideau. Ok. Bon, alors c'était très populaire comme émission. Elle a été qualifiée d'ultra kirchneriste, en référence à Mme Kirchner. Et donc, bref. On imagine que c'est pour ces raisons-là en particulier que cette émission a été zigouillée. Alors vous suivez, on en est maintenant au 22 décembre, soit moins de 15 jours après sa prise de fonction. Donc le président de la République argentine, eh bien, il a publié un décret ordonnant la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de Senato TV, la chaîne qui retransmet jusque-là les sessions de la haute chambre du Parlement argentin. Voilà. Donc comme ça, on ne peut plus regarder à la télé ce qui s'y passe. Ça ne doit pas être très passionnant, c'est clair, mais on ne peut plus. Et puis alors, vous suivez, le 23 décembre, donc le lendemain, il y a un nouveau décret qui permet au gouvernement de suspendre les activités, alors cette fois pendant seulement 180 jours, de deux autorités régulatrices des lois audiovisuelles et télécommunications. Donc là, c'est vraiment le désastre. Bon, alors je crois que je vais m'arrêter là, mais on constate quand même, vous en êtes sûr, hein, que c'est vraiment des attaques frontales de la part de ce premier ministre, de ce président, pardon, libéral, sur tout ce qui est médias. Et Acrimène nous le dit, on n'en entend pas parler. En France, l'Argentine, actuellement, c'est le Paris-Dakar, comme c'est le nom. Quand vous voyez dans les journaux parler d'Argentine, alors moi je ne savais même pas que c'était en Argentine, mais le Paris-Dakar, c'est ça l'actualité argentine en France. Voilà. Donc c'était de nouveau pour mettre en avant le 102.2 comme promulgueur d'infos cachées sous le sable et sous les roues des 4x4.
Et alors, bon, celle-là, elle n'est pas très cachée, celle que je vais vous sortir maintenant, parce que quand même, on n'est pas tout à fait les seuls à en parler, mais c'est pas non plus, ça ne fait pas non plus la grosse une des médias, vu que ça se passe en Afrique. C'est au Burundi, et au Burundi, où nous a révélé un mémo interne de l'ONU. L'ONU considère qu'elle sera de toute façon complètement impuissante s'il se passe un phénomène de génocide. Donc le Burundi inquiète la communauté internationale depuis ce fameux coup d'état constitutionnel du président qui s'appelle Nkurunziza, on en a déjà parlé ici. Donc président qui a modifié la constitution en mai 2015 pour pouvoir se maintenir au pouvoir à l'issue des élections en juin, en obtenant un troisième mandat. La constitution issue de la guerre civile n'autorisait que deux mandats pour un président et demandait en plus une alternance ethnique. Bon, lui, il a trouvé que c'est bon, là, et aussi que lui, il y était, alors il ne voyait pas pourquoi il allait se casser, et aussi que globalement, les Tutsis, eh ben, on n'allait pas les laisser revenir au pouvoir. En fait, on ne sait pas dans quelle mesure, lui, il en a vraiment quelque chose à foutre de ça, mais par contre, de se servir du pouvoir, il est hors de question. Donc, tant qu'à faire, eh ben, autant le faire contre les Tutsis de rester au pouvoir, parce que c'est peut-être plus payant. Je veux dire électoralement parlant. Donc depuis ça s'est un peu bastonné, il y a eu un peu des émeutes, des tentatives de coup d'état, il y a des militaires qui ont essayé un putsch, qui se sont foirés, des milliers de Burundais se sont barrés du pays dans les pays voisins parce que c'était vraiment trop risqué, quoi. L'International Crisis Group tirait la sonnette d'alarme dans un rapport qui avait été publié en novembre et disait le Burundi fait face à la possibilité d'atrocités de masse et d'une guerre civile. Il apparaît que le président Nkurunziza et son entourage utilisent la force pour mettre fin aux manifestations qui ont lieu à Bujumbura depuis avril. Le langage qui est utilisé est sensiblement similaire à celui du Rwanda dans les années 90, c'est-à-dire juste avant le génocide rwandais qui, rappelons-le, a fait 1 million de morts. Et vraiment dans le pays d'à côté, avec le même type de problématique dans une certaine mesure. Et dans le cas d'un scénario du pire, les casques bleus de l'ONU n'y pourront rien. C'est révélé par le site Vice, qui s'est procuré un mémo confidentiel du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, un mémo tout récent puisqu'il date du 14 janvier, c'est-à-dire la semaine dernière, et qui nous dit « Les Nations Unies ne sont absolument pas préparées à la possibilité d'une aggravation de la situation au Burundi ». Les missions de maintien de la paix des Nations Unies sont limitées dans leur capacité à gérer les violences de masse contre les civils, les violences comparables à un génocide, notamment parce qu'il manque un cadre politique. Et en particulier, on ne sait pas bien quoi faire avec la question du consentement du pays, du gouvernement du pays, et du consentement des principales parties du conflit. C'est notamment ce qu'on peut lire dans ce mémo. Voilà, la crainte d'une nouvelle guerre civile au Burundi est donc très...